This new temple is a place for my Hindu brothers and sisters to pray and strengthen the harmony with God. We need such a place which is able to keep us in contact with God. The inauguration of the new Hindu temple also expresses the freedom of worship in the United Arab Emirates. Harmony with God leads to harmony with all people and all of creations.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Dans une première partie, nous parlerons de la situation de Jorge Mario Bergoglio. Dans une deuxième partie, nous traiterons d'une nouvelle preuve de la démonstration de l'imposture moderniste et de la fausse papauté, à savoir le fait qu'on s'accroche, pour la première fois, chers amis, une femme que vous voyez sur la miniature de la vidéo, une femme, a célébré la pseudo-messe Paul VI. C'était au Brésil, le 9 février dernier. Nous allons donc traiter de la question de la féminisation en cours de la hiérarchie moderniste, qui est une question, je dirais, de fond. Et dans une troisième partie, j'évoquerai un petit peu cet ouvrage que vous voyez là, qui est la dernière publication de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Ils ont réédité ce livre « L'art de bien mourir », c'est-à-dire de mourir en état de grâce, écrit par justement Saint-Robert Bellarmin, l'un des plus grands théologiens de tous les temps. Voilà. Alors, avant cela, comme vous le savez, nous faisons quelques petites annonces pour réagréger la qualité françoise. D'abord, comme vous le savez, si vous cherchez un bon bouquin, il faut aller 202 rue Lecourbe, chez nos amis de la librairie française. Je ferai un certain nombre d'interventions, de conférences gratuites, je précise, à la librairie française à partir du mois d'avril. Normalement, je devrais intervenir dans le cadre du cercle d'Alain Pascal pour parler de la question de la vacance du siège. Donc c'est une façon pour ce cercle de faire preuve d'ouverture d'esprit. Je les en remercie et je les en félicite. Et surtout, j'espère, chers amis, faire plusieurs interventions sur la question de Gaulle, Pétain, Vichy, etc. Puisque, avec un peu de chance, si la Providence le permet, mon ouvrage consacré à la question, qui sera un bon gros bébé, hein, je vous le garantis, sortira courant avril. Voilà. Et il y a énormément de lièvres à soulever. Énormément, dont certains ont des liens d'ailleurs avec l'actualité. Donc là, ça va cogner très fort, chers amis, au printemps, je vous le garantis. Voilà, donc, par ailleurs, si vous cherchez un bon bouquin, vous le savez, chers amis, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Et d'ailleurs, à ce sujet, le catéchisme du chanoine Moisset, qui était donc en rupture de stock, est de nouveau disponible. Voilà, une nouvelle réédition vient d'être faite, ce qui est un très bon signe, je dirais, de vitalité, puisque ça veut dire que ce catéchisme s'est bien vendu. Donc ça, c'est quand même très heureux. Et voilà. Donc, si ce catéchisme vous intéresse, je vous invite à vous le procurer, parce que c'est très ludique, c'est très facile d'accès. Et voilà, donc il y a la puissance de la doctrine, et par diverses anecdotes historiques, on distille, je dirais, les vrais principes. Et bien entendu, vous trouverez ce dernier livre, donc, de Saint-Robert Bellarmin, dont nous parlerons en fin d'émission. Par ailleurs, chers amis, vous le savez, les vrais peuvent aller aussi sur le site des éditions L'Estocade. Nous n'avons pas de nouveautés ces derniers temps. Le dernier ouvrage que nous avons publié, c'est celui-ci, Gambetta et la Défense Nationale, pour comprendre comment Gambetta nous a conduit au désastre militaire de 1870, avec Freycinet, son bras droit. Et notre prochaine publication devrait, a priori, donc vous disais-je, se faire courant avril avec mon Pétain de Gaulle. Et croyez-moi, c'est plus que Pétain de Gaulle, en fait, c'est Vichy, la vraie question. C'est un ouvrage qui parlera de beaucoup de personnages de l'époque. Donc, je suis vraiment très heureux et très fier, et qui, je pense, sera utile et fera mal à l'ennemi. Voilà. Alors, je précise que la gauche est une maladie mentale, est en rupture de stock également, donc il faudra attendre on fera une réédition, je pense, aussi fin mars, début avril. Voilà. Parfait, parfait. Alors ensuite, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Donc d'abord, appel aux dons pour des écoles, hein, pour des écoles. École des Trois-Saint-Jean en Belgique. Notre-Dame Auxiliatrice en Bretagne, dans la commune de Béton. Et l'école Saint-Expédite à Guingamp. Vous pouvez aussi faire un don pour nos amis du monastère de l'œuvre de l'Étoile. Tous les liens sont en description. Et n'hésitez pas à faire des dons si vous en avez sous le coude, car comme nous dit Saint Robert, donc que l'homme riche soit persuadé que l'aumône qu'il fait, que par l'aumône qu'il fait, il reçoit plus qu'il ne donne. Il reçoit plus qu'il ne donne. Par ailleurs, chers amis, le samedi 29 mars donc 2025 aura lieu la fête des amis d'Alain Pascal, qui est une réunion d'auteurs où nous dédicaçons nos ouvrages. Votre serviteur et Alain Pascal seront notamment présents. Je pense que vous trouverez la liste des autres auteurs sur internet. Je sais qu'aussi Pierre Joly sera là. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est un samedi après-midi, c'est dans le 17e arrondissement, métro Wagram, je crois que c'est 4 rue Brémontier, dans un bar dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Enfin, dans un café-restaurant. Voilà, donc je crois qu'il y a l'adresse périodiquement en description, hein, il me semble. Bah, si vous la mettrez à l'occasion. Voilà, ensuite, petite pub aussi pour la petite brocante de Saint-Joseph. Périodiquement, est-ce que vous pouvez mettre une petite photo d'une très belle assiette qu'on peut acheter notamment sur la brocante de Saint-Joseph, si vous avez ça. Voilà, pour vous donner une idée. Bon, après, il y a beaucoup de choses très différentes, hein. Il y a des objets religieux, non religieux. Il y a beaucoup de choses très très différentes. Là, c'est pour vous donner juste un ordre d'idée. Vous me dites, hein, quand vous l'avez mise. C'est bon ? Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Alors, traditionnellement, j'oublie des annonces. Hein. Ça fait partie de la tradition. Parce que je ne les note pas. Bon. Mais bon, on va attaquer. Et au pire, si ça me revient, on en fera mention. Alors, tout d'abord, je commence par des mea culpa. Parce que j'ai fait 2 erreurs factuelles dans l'émission précédente. D'abord, concernant le nombre d'évêques valide se disant catholique à défaut de l'être, j'ai oublié de prendre en compte dans mon calcul les évêques de rites orientaux conciliaires, parce que eux n'ont pas abandonné leur rite d'ordination et de sacre. Ils ont gardé ceux de toujours, donc ils sont valides. Voilà. À défaut d'être catholiques, en raison de leur absence de foi, ils ont des sacrements valides, à l'instar des orthodoxes, par exemple, entre guillemets, hein. Deuxième erreur, j'ai dit que l'abbé Guépin et Mgr Williamson avaient été ordonnés le même jour, le 29 juin 1977. C'est inexact. Mgr Williamson a été ordonné un an avant, le 29 juin 1976, après 3 ans et demi de séminaire. Voilà. Ce qui est peut-être un record à Écône. Voilà, ensuite, je n'ai pas développé cette question ce soir, mais 2 personnes différentes, et qui ne se sont pas concertées pour cela, m'ont envoyé une allocution de P12, allocution de P12, c'est la fatigue ça, en date du mois de juin 1945, dans laquelle il condamne en large et en travers le national-socialisme. C'est très intéressant, chers amis. Pourquoi ? Parce que d'aucuns parfois nous disent que l'Église n'a jamais condamné le national-socialisme et que ce n'est pas condamné dans Mittbrennendersorge. Alors, si ce n'est pas le national-socialisme qui est condamné dans Mittbrennendersorge, c'est quoi ? C'est les Égyptiens, c'est les pyramides, enfin, non. Non, le sujet qui est traité, c'est le Troisième Reich. Bon. Mais là, on en a la confirmation. On en reparlera dans une émission ultérieure parce que c'est intéressant. Il y a quelque chose que j'ai observé. C'est la capacité des gens à comprendre l'inverse de ce qu'un texte dit. J'ai échangé sur Facebook, il y a quelques mois de ça, avec un conciliaire Ecclesiadei, et qui me soutenait mordicus que le magistère ornière de l'Église n'était pas infaillible. Et pour ce faire, il me citait Humani Generis. Or, Humani Generis dit clairement que le magistère ordinaire est infaillible puisqu'il le met sur le même plan que le magistère extraordinaire. Donc, vous voyez, il y a une capacité chez les gens qui ne veulent pas comprendre à ne pas donner aux mots leur sens et à ne pas comprendre le sens obvi d'une phrase. Bon. On en reparlera. Alors ensuite, en introduction de cette émission, vous avez vu une vidéo qui concerne l'inauguration d'un temple hindou aux Émirats Arabes Unis. Lors de l'inauguration de ce temple, lors de l'ouverture de ce temple païen, était invité un évêque moderniste dit conciliaire. Et non seulement il était invité, mais il a fait un discours. Qu'a-t-il dit dans ce discours ? Il s'est réjoui de l'ouverture de ce temple païen en déclarant notamment, citation, que ça allait aider à rester en contact avec Dieu. Rester en contact avec Dieu. J'aurais aimé qu'il nous précise en quoi les démons Krishna, Vishnu et Kali allaient nous aider à rester en contact avec Dieu. Alors on peut se demander, mais pourquoi cet individu qui prétend être catholique, à défaut de l'être, fait-il l'éloge d'une fausse religion qui, selon l'Église catholique, damne ? Pourquoi fait-il cela ? Pierre de Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 1. La réponse se trouve dans Vatican II, chers amis. Vatican II, dans son document Nostra Aetate, accrochez-vous, réhabilite et valorise la fausse religion hindoue, hindouiste, je ne sais pas comment il faut dire. Dans ce document, on nous dit que dans l'hindouisme, on scrute le mystère divin. On scrute le mystère divin. Donc il faudra qu'on m'explique comment Vishnu, Krishnu et compagnie nous font scruter la très sainte Trinité. Là, je vous avoue, ça me dépasse. Alors, si notre troll préféré, Fide Fidelis, est là, si Mathieu Lavagna, par extraordinaire, regarde cette émission, ou pourquoi pas d'ailleurs Guy Pagès, ou l'abbé Raffray, ou quelqu'un des communautés Ecclesiadei, je les invite en commentaire à nous expliquer comment on scrute le mystère divin dans l'hindouisme. Là, j'avoue, je cale, j'avoue. Bon, bien entendu, tout ça, c'est du grand n'importe quoi, c'est une hérésie. L'hindouisme est une religion qui mène en enfer et les dieux des païens sont des démons, comme il est dit dans les Écritures. Donc lorsque l'évêque conciliaire, ceci étant posé, évêque avec des guillemets, hein, lorsque l'évêque conciliaire dresse des louanges au culte hindouiste, qui aide à rester en contact avec Dieu, il professe Vatican II. Il fait une bonne application de ce qu'est Vatican II. De ce point de vue-là, il est cohérent. Ensuite, pour terminer avec l'actualité spirituelle, bonne nouvelle, chers amis. Un prêtre américain de la fraternité Saint-Pédis, qui s'appelle l'abbé Red Enick, quitte la fraternité Saint-Pédis. Pourquoi ? Parce qu'il fait le constat de la vacance du siège. Voilà, donc très naturellement, il quitte la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Donc, nous avons un prêtre catholique de plus sur Terre. Excellente nouvelle. On en arrive maintenant, chers amis, au premier gros sujet du jour, qui est la santé, l'état de Jorge Mario Bergoglio. Je pense que vous le savez tous, Bergoglio a de gros problèmes de santé, puisque suite à une pneumonie, il a des problèmes respiratoires, il a des problèmes sanguins, je crois qu'il a un problème au niveau de ses reins également, donc ça ne va pas fort du tout pour l'intéresser. Jorge Mario Bergoglio est au plus mal. Il est au plus mal moins en raison de son état de santé qu'en raison de l'état de son âme. Pourquoi ? On va en reparler dans un instant. Mais priez, chers amis, priez pour la conversion de l'intéressé sur son lit de mort avant qu'il nous quitte. Car dans quel état est son âme ? Dans quel état est son âme à l'heure où je vous parle ? On va le voir dans quelques instants. Donc prions, je répète, hein, pour la conversion du vicaire de Satan, Bergoglio. Ça serait une des conversions les plus magnifiques de l'histoire de l'Église. À l'instar donc de ses prédécesseurs modernistes, Bergoglio est un faux pape, nous l'avons démontré maintes et maintes fois à ce micro, après d'autres et avec d'autres. Nous avons la preuve la plus absolue de cette imposture, puisque Jorge Mario Bergoglio a professé l'hérésie ex cathedra, c'est-à-dire qu'il a professé l'hérésie dans des documents magistériels qui auraient dû être infaillibles en matière de foi et de mœurs si Bergoglio avait été pape. Donc, ce soir, je vais vous citer trois exemples de ces hérésies professées ex cathedra, parce que Bergoglio n'arrête pas de balancer des hérésies dans ses interviews, quand il fait ses conférences de presse en avion, mais il en a fait aussi, officiellement, dans son pseudo-magistère. Alors, avant cela, il convient de rappeler les conditions qui sont nécessaires pour que une déclaration papale, une définition papale, soit infaillible. Deux conditions doivent être réunies. Ces deux conditions sont simples. La première, c'est que le pape doit traiter d'une question qui est relative à la foi ou aux mœurs. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit vouloir l'imposer à l'ensemble de l'Église universelle, à l'ensemble des fidèles. Donc pour vous prouver tout cela, j'avais rappelé d'ailleurs ces deux conditions dans mon débat contre Mathieu Lavadia, il me dit que c'était faux, or c'est l'évidence même. Je vous ai souvent cité le magistère à ce sujet, ce soir on va citer un théologien, enfin on va citer une revue théologique, qui est le supplément de l'ami du clergé du mois de décembre 1908. Pierre Thion, s'il vous plaît, pouvez-vous nous mettre la pièce numéro 2 ? Vous seriez un vrai. Alors, citation concernant ces deux conditions. Deux conditions sont nécessaires pour qu'une décision du souverain pontife soit infailliblement vraie. Premièrement, l'objet de cette décision doit être une doctrine relative à la foi et aux mœurs. Deuxièmement, il faut que le pape porte cette décision en vertu de sa suprême autorité doctrinale et l'impose à la croyance de l'Église entière. Quand ces deux conditions se trouvent réunies, les décisions du souverain pontife sont définitives, irréformables, infaillibles. Voilà. Alors si je ne me trompe pas, ça date du 9 août 1928. Si ce n'est pas le 9 août, c'est pas loin. Mais de toute façon, vous trouvez cela sur le site Gallica, puisque j'ai trouvé ça par le plus grand des hasards sur le site Gallica. Voilà. Donc, deux conditions sont réunies pour que le pape soit infaillible. Traiter de foi et de mœurs et imposer cela à l'ensemble de l'Église. Alors commençons, chers amis, par la première hérésie de Jorge Mario Bergoglio de ce soir. Alors, on aurait pu citer tous ces délires païens dans Laudato Si, on aurait pu citer les délires païens également de Querida Amazonia, on aurait pu citer les délires maçonniques dans Fratelli Tutti. Ce soir, on ne va pas parler de ces documents. Bon. Premier document, nous allons parler d'Amoris Laetitia, qui est une exhortation apostolique. Alors là, mes contradicteurs, toujours à la recherche d'un échappatoire, vous m'objectez, mais attendez, une exhortation apostolique, ça fait pas partie du magistère de l'Église, enfin, c'est pas infaillible. Ah bon ? Pourtant, une exhortation apostolique est un enseignement qui traite de foi et de mœurs à l'Église universelle. C'est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et pour définitivement et incontestablement enfoncer le clou, eh bien, je vais vous citer Pie XII, qui a fait une exhortation apostolique, chers amis, qui s'appelle Menti Nostrae et qui est relative à la vie et à la formation des clercs. Pierre Thiermont, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 3, je vous prie. Que dit Pie XII lorsqu'il parle de son propre document dans Menti Nostrae ? Il nous dit, citation, « Nous jugeons qu'une des principales obligations de notre magistère suprême » Et là, je n'ai pas la suite, Pierre Thiermont. Qu'est-ce qu'il nous dit ? En gros, c'est de s'occuper des prêtres, etc. quoi.
Et de veiller de notre mieux à ce que les efforts des vénérables pasteurs
voilà.
et des prêtres...
Donc, on voit bien qu'il parle de son document. Voilà. Donc, de cette exhortation apostolique. Et il nous dit « Nous jugeons qu'une des principales obligations de notre magistère suprême. » Donc, Pie XII nous dit que les exhortations apostoliques, chers amis, font partie du magistère de l'Église. Conclusion, une exhortation apostolique est infaillible en matière de foi et de mœurs. Bon. Si Bergoglio avait été pape, son exhortation apostolique à Maurice et Titia aurait été infaillible en matière de foi et de mœurs. Or, elle est bourrée d'hérésies. Mais ce soir, je vais vous en citer qu'une seule. Je précise, ça c'est pas les cédévacantistes qui l'ont inventé, que pour pouvoir communier, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire n'avoir aucun péché mortel sur la conscience. Par ailleurs, lorsque l'on est concubin, lorsqu'on vit en concubinage, lorsqu'on vit intimement avec une personne sans être marié à cette personne, on vit en état de péché mortel. Et donc on ne peut pas avoir accès à la communion, on ne peut pas communier. Parce qu'on est, je le répète, en état de péché mortel. Bon. Bergoglio fait son torchon à Maurice Laetitia. Pierre Thiermont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous mettre la pièce numéro 4, je vous prie. Et que nous dit Bergoglio dans Maurice Laetitia au sujet des personnes qui vivent en concubinage, qu'on appelle les baptisés, divorcés et remariés civilement, et donc non catholiquement, il nous dit, les baptisés, divorcés et remariés civilement peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église. Comme membres vivants de l'Église. Un membre vivant de l'Église, chers amis, c'est quelqu'un qui vit en état de grâce. Donc Bergoglio nous dit que les personnes qui vivent en concubinage peuvent vivre en état de grâce et aller communier. C'est une abomination doctrinale. C'est une abomination doctrinale. Donc, quand Bergoglio nous enseigne cela, eh bien, il professe une hérésie épouvantable. Voilà. Parce que quand on vit en concubinage, on ne peut pas communier. Bon. Voilà. Ensuite, deuxième hérésie qui est dans la continuité de celle-ci. Là, on a vu que dans cette hérésie, Bergoglio nous dit qu'il n'y a pas besoin d'être en état de grâce. Enfin, il nous dit que des personnes qui ne sont pas en état de grâce, Bergoglio écrit qu'ils le sont, mais de facto ils ne le sont pas, peuvent aller communier. Et on va voir qu'il a de la suite dans les idées. Dans sa pseudo-lettre apostolique du 29 juin 2022, Desiderius Desideravi, que nous dit-il? Il nous dit que pour aller communier, il n'y a plus qu'une seule condition. C'est plus la condition d'être en état de grâce, c'est qu'il suffit d'avoir la foi. Citation. Pour être admis au festin, il suffit de porter l'habit de noces de la foi. Donc pour aller communier, ça veut dire il suffit d'avoir la foi. Plus besoin d'être en état de grâce. Ça saute complètement. Il est vrai qu'il est aussi cohérent avec sa fausse religion. Pourquoi? Parce que les modernistes nous enseignent depuis le Conciliabule Vatican II et Gaudium et Spes que la grâce sanctifiante, chers amis, que l'on perd par le péché mortel, en réalité, on ne peut pas la perdre puisqu'elle est naturelle à l'homme. On est tous les hommes, même les non-catholiques, même les gens qui commettent des péchés mortels et qui ne se repentent pas, sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne la fausse religion moderniste. L'inventeur de cette hérésie, c'est le philosophe français Maurice Blondel, c'est Henri de Lubac qui l'a peaufiné, et Gaudium et Spes de Vatican II l'a reprise, et puis après, dans son pseudo-magistère, Vostila, on a parlé maintes et maintes fois. Vostila Jean-Paul II. Dernière hérésie, qui est très simple à comprendre, l'Église, chers amis, a toujours défendu la moralité de la peine de mort. Donc, on nous le dit, même dans le... Et elle l'a défendu infailliblement, notamment dans le catéchisme du Concile de Trente. Et quand un magistrat applique la peine de mort, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, il observe, citation, « très fidèlement la loi de Dieu ». Donc, je répète, « application de la peine de mort égale application très fidèle de la loi de Dieu ». Donc là, il n'y a rien de compliqué à comprendre. La peine de mort concerne le cinquième commandement. C'est une question qui est relative aux mœurs. C'est une matière infaillible, c'est une question infaillible. Donc, l'Église, je le répète, a toujours défendu la moralité de la peine de mort. Bon. Or, chers amis, que fait Bergoglio dans son pseudo-catéchisme, enfin plutôt dans son catéchisme de l'entre-guillemets Église catholique, qui est en réalité le catéchisme de la secte moderniste? Eh bien, Bergoglio condamne la peine de mort qui a toujours été approuvée par l'Église. Citation. C'est pourquoi l'Église, en réalité la secte moderniste, enseigne à la lumière de l'Évangile. Donc en fait, les membres du Concile de Trente et le pape qui a validé le catéchisme du Concile de Trente ne connaissaient pas l'Évangile, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'Église, donc en fait, la secte moderniste enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est inadmissible, car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne humaine. Donc Bergoglio accuse l'Église catholique d'avoir pendant 2000 ans porté atteinte à la dignité de la personne humaine. Et il accuse donc l'Église pendant 2000 ans d'avoir piétiné l'Évangile. Donc l'Église, qui est infaillible, qui est indéfectible, nous dit Bergoglio, a piétiné, a transgressé l'Évangile. Mais comment peut-on croire une absurdité pareille, chers amis ? Ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est très clair, c'est que l'Église catholique affirme un principe. La peine de mort est morale et son application relève de la bonne observation de la loi de Dieu. La secte moderniste nie ce principe et condamne l'application de la peine de mort. Elle condamne la peine de mort qui est selon elle inadmissible. Donc là, c'est vraiment très clair. L'opposition des deux doctrines sur une matière infaillible est très claire. D'un côté, il y a affirmation d'un principe. De l'autre côté, il y a négation de ce même principe. Bon. Bref, chers amis, Bergoglio a donné plus de preuves qu'il n'en faut pour démontrer qu'il n'est pas le vicaire du Christ, mais qu'en réalité, il est le vicaire de Satan. Donc, priez pour la conversion de ce pauvre homme. Je pense que j'ai fini sur cette question. À moins que... Non, j'ai pas fini sur cette question. Au regard de ce qui précède, il est évident donc que Bergoglio n'est pas pape et qu'il ne professe pas la foi catholique. Pourtant, parmi ceux qui le critiquent, eh bien, très peu de personnes n'acceptent cette vérité. Pourquoi ? Réponse, à cause des complices, disons-le, à cause des collabos. Des collabos qui, face au monde, donc, proclament le contraire, à savoir qu'il est pape et qu'il professe la foi catholique. Question, qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui, bien qu'ils critiquent Bergoglio, disent qu'il est pape et qu'il professe la foi catholique ? Qui sont ces gens qui donnent une légitimité catholique alors qu'ils passent leur temps à critiquer Bergoglio et parfois même Vatican II ? Eh bien, vous l'avez deviné, chers amis. Ces gens sont ceux qu'on appelle les tradis. Qui vise-t-on lorsque l'on parle des tradis ? Bien entendu, la fraternité Saint-Pédis, les groupes williamsoniens, les conciliaires conservateurs, comme par exemple l'abbé Guy Pagès, ou encore ce qu'on appelait autrefois les communautés ecclésiadei, donc c'est-à-dire Institut du Christ-Roi, Fraternité Saint-Pierre, Fraternité Saint-Vincent-Ferrier et Institut du Bon Pastis. Voilà. Tous ces groupes, chers amis, tous ces groupes proclament à la face du monde et devant Dieu que Bergoglio est pape et qu'il professe la foi catholique. Il le proclame sans honte. Comment procède-t-il pour le faire ? Eh bien, dans le canon de la messe, comme vous le savez, on en parle souvent ici, il existe un passage qui s'appelle le Te Igitur. C'est dans ce passage que se trouve la fameuse locution de Luna Cum. Ce passage ne vise que les catholiques. Citation, je cite le missel, il vise tous les orthodoxes et ceux qui professent la foi catholique. Donc, si vous citez Bergoglio dans le Te Igitur, vous proclamez qu'il a la foi catholique. Et non seulement cela, mais dans le missel, il est dit dans ce cas-là qu'il est un serviteur de Dieu. Donc Bergoglio, serviteur de Dieu, c'est quand même fort de café. Bon. Or, que font les tradis, Fraternité Saint-Pédis, Communauté Ecclésiadei, etc. ? Ils citent Bergoglio dans le Te Igitur. Donc ils nous disent que Bergoglio est catholique. Chaque jour qui passe, dans leur messe, solennellement, face au monde et devant Dieu, ils nous disent que Bergoglio professe la foi catholique. Est-ce que c'est sérieux, chers amis, franchement ? Après les hérésies qu'on vient de voir, et là j'en cite 3, mais on peut en citer 150 avec Bergoglio. Bon. Faisons une analogie politique. Mélenchon, tout le long de l'année, critique Macron et se positionne en tant qu'opposant au système. Mais Lorsqu'arrive le moment de vérité, que fait-il? Il bifurque et il appelle à voter pour le système qu'il prétend dénoncer et condamner. Les tradis font la même chose. Ils critiquent Bergoglio toute l'année, parfois même Vatican II, mais au moment de vérité, celui de la messe, ils bifurquent et se soumettent et nous disent que Bergoglio est pape et qu'il professe la foi catholique. La différence entre les tradis et Mélenchon, c'est que Mélenchon bifurque et trahit tous les 5 ans, alors que les tradis, eux, bifurquent et trahissent tous les jours, dans leur messe. Je le répète, chaque messe tradie, chers amis, est la proclamation solennelle et officielle de la catholicité de Jorge Mario Bergoglio. C'est insupportable. C'est insupportable. Dire que Jorge Mario Bergoglio a la même foi que Pie XII, que Saint Pie X, que Saint Pie V, que Saint Pierre, que les apôtres, c'est insupportable. Et pourtant, c'est ce qu'enseignent et c'est ce que professent les tradis, ces fameux soi-disant champions de la tradition. C'est une imposture, chers amis. Si vous voulez être catholique, rejoignez une communauté non unacum. Dans les communautés non unacum, on ne nomme pas Bergoglio au canon de la messe. Et nous disons face au monde, et par les SMS, le message que nous envoyons face au monde et devant Dieu, c'est que Jorge Mario Bergoglio ne professe pas la foi catholique et que c'est un imposteur. Voilà. À l'instar de ses prédécesseurs modernistes depuis Roncalli Jean XXIII. Bref, chers amis, avec les tradis, vous l'avez compris, nous sommes très très loin de ce pseudo-catholicisme viril auquel appelle l'entre guillemets, enfin l'abbé Raffray, je dis, enfin, il est abbé puisqu'il est diacre valide, même s'il n'est pas prêtre valide. Mais on est très loin de la virilité spirituelle, puisqu'ils ne sont même pas capables de nommer l'ennemi moderniste. Et donc ils ne le combattent pas. C'est pas sérieux, franchement. Et ce pseudo-catholicisme viril des tradis, en réalité, qu'est-ce que c'est, chers amis? C'est un hameçon pour leurrer les âmes de bonne volonté qui se posent des questions au sein de la secte moderniste. Et cet hameçon sert à les maintenir dans le giron du modernisme homosexualisant. Telle est la vérité de ce pseudo-catholicisme viril des tradis. Voilà. Bref, chers amis, priez pour ce pauvre homme qui est Jorge Mario Bergoglio, vicaire de Satan de son état, afin qu'il se convertisse enfin sur son lit de mort. Enfin, il n'est pas encore mort, mais qu'il se convertisse sur son lit d'hôpital. Voilà. Prions, prions pour ce pauvre homme. Alors maintenant, nous allons faire une petite pause, Pierre de Tirmont. On va mettre une petite chanson de Serge Lama. Et à l'issue de cette chanson, eh bien, nous attaquerons le deuxième gros sujet du jour. Voilà.
Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres. Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres. Un vent d'Est a soufflé glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, oui mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ces hommes, et nos enfants non plus ne passent plus par Rome. Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes, la voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur, le Messie, le berger, qui récupérera ses brebis naufragées? Où donc est la soutane où l'on reconnaissait avec respect l'homme de Dieu quand il passait? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Protégez vos brebis de ces rapaces. Ils les ont déjà sacrifiées. Je crois en Dieu, hélas, le cercueil de mon père, écrasé sous les fleurs, était bien solitaire. La croix dans une main, dans l'autre la sébile. Un vieux prêtre annonçait les mots de l'évangile. Dans la chapelle morne où la mort s'étonnait, le jardin de l'Éden offrait des fleurs fanées. Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le credo, l'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Vos prêcheurs d'aujourd'hui font fin de race. Tous leurs gestes sont modifiés. Debout. Debout les jolis mots antiques, et les incantations, et les chœurs des cantiques. Il faut rentrer dans nous comme en un monastère, et se dire qu'on est soi-même un grand mystère, et qu'éternellement du berceau au linceul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Et qu'éternellement du berceau l'un seul, l'homme est sans le savoir d'une secte à lui seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. L'évangile est soumis à ceux d'en face. Votre fils est recrucifié.
Nous arrivons, chers amis, au deuxième gros sujet du jour, qui est d'ailleurs une véritable bombe, même si on n'en parle pas beaucoup. Pour la première fois de l'histoire du Novus Ordo Missae, une femme, donc une prêtresse, entre guillemets, anglicane, a célébré officiellement la pseudo-messe Paul VI. Cela s'est passé au Brésil. Puis retiens-moi, est-ce que vous pouvez afficher le portrait de l'intéressé ? Voilà. Alors, pour vous décrire les événements, je vais tout simplement vous citer le commentaire qu'on a fait, la description qu'on a fait, le site Gloria TV, qui est un site conciliaire, qui n'est pas cédévacantiste, je tiens à le préciser. Bon. Citation. Viviane Schwank de Oliveira, prédicatrice anglicane, a concélébré avec 7 évêques, donc modernistes, et 80 prêtres, lors de l'Eucharistie d'installation de Mgr Odélir José Magri, 61 ans, comme archevêque de Chapecó Santa Catarina au Brésil le 9 février. Donc, chers amis, comprenez bien que ce n'était pas une messe obscure dans un coin perdu, dans un coin paumé, non. C'était une messe extrêmement importante, extrêmement solennelle, pour installer un nouvel archevêque. Donc tout ça a été programmé, planifié, connu à l'avance. Poursuivons. La femme est entrée vêtue d'une tunique et d'une étole bleue avec les prêtres et les évêques lors de la procession d'entrée. Donc elle était parfaitement fondue parmi les clercs modernistes. Et là, on s'accroche. Elle s'est tenue dans le presbytère, a participé activement à la consécration eucharistique et à distribuer la communion. Elle a consacré, chers amis, elle a prononcé donc les paroles de la consécration. Alors si je vous rassure tout de suite, il n'y a pas eu de consécration, puisque dans la pseudo-messe Paul VI, rappelez-vous, la pseudo-messe Paul VI, elle est invalide, parce que la matière n'est pas conforme à ce qu'attend l'Église, puisque la matière n'est pas en état d'oblation. Et les paroles de la consécration sont dites dans ton narratif et non pas in persona Christi. Donc rassurez-vous, il n'y a pas eu de consécration, mais normalement le symbole est là, officiellement, dans ce qui est censé être une église catholique, dans ce qui est censé être une messe catholique, une femme a consacré le pain et le vin, chers amis. Non mais est-ce que vous allez vous réveiller un jour, chers amis conciliaires, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, quoi. Est-ce que vous allez vous réveiller un jour? Voilà. Donc, en tout cas, officiellement, pour la première fois de l'histoire du novus ordonnancé, donc de la pseudomesse Paul VI, une femme a célébré l'entre-guillemets messe et a entre-guillemets consacré. Quelle horreur, chers amis. Quelle horreur. Tout ceci s'inscrit dans un contexte profond, je dirais, vaste, que nous avons déjà évoqué à ce micro. Et que nous avons résumé par cette phrase de Lénine, qui est « Garder la coquille, vider la substance. En somme, changer le fond, mais garder la forme, la subversion pourra avancer masquée. » La secte moderniste, pendant des décennies, a procédé de la sorte. Elle avait vidé la substance en professant l'hérésie, en inventant des sacrements invalides, etc. Mais elle avait gardé la forme, elle avait gardé les apparences d'église. Depuis un peu plus d'un an, depuis un an et demi même, je dirais, oui, la secte moderniste change de stratégie. Et cette fois-ci, elle saborde, elle lacère les dernières apparences d'église, en faisant des choses absolument invraisemblables pour tout esprit catholique d'une part, mais même qui a conservé juste quelques éléments de doctrine catholique. Exemple, la bénédiction des couples homosexuels. Officiellement, la secte moderniste, quoi qu'en dise Mathieu Lavagna, bénit les couples homosexuels. Allez lire Fidus Supplicans. Allez lire le texte de clarification qui confirme que cette secte bénit les couples homosexuels. Autre exemple, Bergoglio, il y a quelques mois de ça, a canonisé un hérétique nestorien qui n'a jamais été catholique, ni de près ni de loin, Isaac de Ninive. Autre exemple, en Indonésie, il y a quelques semaines, Bergoglio a professé le seul universel de façon totalement décomplexée. Autre exemple, le 16 décembre dernier, rappelez-vous, on en a parlé dans une émission récente, Bergoglio a affirmé mot pour mot que les hérétiques méthodistes avaient la même foi que les catholiques. Donc on le voit, la secte moderniste est en train de charcuter les dernières apparences d'église qu'elle avait conservées. Pourquoi font-ils cela? Pour empêcher tout retour au catholicisme des fidèles modernistes, en leur donnant une idée toujours plus éloignée de ce qu'est le catholicisme. Voilà. Quand vous êtes catholique, la bénédiction des couples homosexuels, enfin, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, vous comprenez, vous aurez les yeux, quoi. Qu'est-ce que Bergoglio pouvait faire de pire et de plus manifeste pour démontrer qu'il n'est pas pape et pour démontrer qu'il n'est pas à la tête de l'Église, chers amis? Alors, l'un des meilleurs moyens donc, pour lacérer, je dirais, ces apparences d'Église, eh bien, c'est de créer une hiérarchie qui n'est plus exclusivement masculine et qui est dorénavant mixte, qui contient donc des femmes, puisque l'Église, elle, a toujours eu exclusivement une hiérarchie composée d'hommes. C'est de foi, chers amis. Pourquoi ? Le clergé est censé représenter le Christ lorsqu'il agit in persona Christi. Donc le Christ étant un homme, le clergé ne pouvait être que composé d'hommes. Et d'ailleurs, le Christ n'a choisi que des hommes. Il n'a choisi les apôtres que parmi des hommes. Vous voyez ? Bon, alors donc, la meilleure façon de dire « notre société religieuse n'est pas l'Église », la meilleure façon de saborder les apparences d'Église, c'est de faire une hiérarchie féminine. Et ce qui est bien, c'est que là, on n'est plus dans la doctrine. Là, on ne peut plus faire de sophisme bidon pour contrer le magistère de l'Église. Voilà, une femme, c'est une femme. Voilà, bon. Alors, tout ceci implique, chers amis, de bien comprendre d'abord ce qu'est la hiérarchie de l'Église, de quoi est-elle constituée, et ça implique de comprendre comment le félon, le faux pape Montini Paul VI a commencé à réformer tout cela, pour mieux le dénaturer. Alors d'abord, de quoi est composée la hiérarchie de l'Église? Le Concile de Trente répond à cette question. La hiérarchie est composée des ordres mineurs et des ordres majeurs. Il y a quatre ordres mineurs dans l'Église. Le portier, le lecteur, l'exorciste et l'acolyte. Je répète, portier, lecteur, exorciste, acolyte. Il y a ensuite trois ordres majeurs. Que sont ces trois ordres majeurs? Sous-diaconat, diaconat et sacerdoce, étant précisé que le sacerdoce a deux degrés, prêtrise et épiscopat. Donc sous-diaconat, diaconat, sacerdoce. Donc ça, c'est la hiérarchie de l'Église. Ordre majeur et ordre mineur. Paul VI, par un motu proprio du 15 août 1972 qui s'appelle « Ministre Quedam », Pierre, tiens-moi ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 5, je vous prie. Paul VI est venu chambouler tout cela. Lui aussi avait commencé à toucher, vous voyez, aux apparences de l'Église. Paul VI a fait une réforme des ordres. D'abord, il a aboli un ordre majeur qui est le sous-diaconat. Ensuite, il a aboli deux ordres mineurs, à savoir l'ordre d'exorciste et l'ordre de portier. Tout ça est aboli. Et ensuite, il a requalifié les ordres mineurs de ministères. Vous voyez, donc c'est beaucoup moins solennel. On est moins proche de cette idée de sacrement de l'ordre hein, qui est préparé. Mais il y a quand même un truc très intéressant dans ce document. Je crois que c'est le point 7 où Paul VI nous dit que selon la tradition de l'Église, les ministères d'acolyte, donc qu'il a conservé, et de lecteur sont réservés aux hommes. Et dans certains textes, conformément à la tradition de l'Église. Donc, conformément à la tradition de l'Église, nous dit Montigny Paul VI, les ministères d'acolyte et de lecteur sont réservés aux hommes. Donc, il nous dit, c'est la tradition de l'Église. Ce point est très intéressant, pourquoi ? Parce que Bergoglio, nous le verrons plus tard, va le contredire là-dessus. Donc, chers amis, dans les années 80, il y a eu des mouvements en faveur, dans la secte moderniste, en faveur de l'ordination des femmes. Wojtyla Jean-Paul II s'y est opposé dans un texte qui s'appelle Ordinatio Sacerdotalis, et il s'y oppose de façon très solennelle, hein, en disant « Je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes, et que cette position doit être définitivement tenue pour tous les fidèles de l'Église. » La question est-elle tranchée chez les modernistes ? Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des doublages, chers amis, au mois d'octobre 2023, et des cardinaux modernistes ont demandé à Bergoglio et à Tucho s'ils confirmaient que cette question ne pouvait pas se poser, donc la question de l'ordination des femmes ne pouvait pas se poser, parce que Wojtyla, Jean-Paul II, a tranché la question. Et là, ils font une réponse, mais d'un niveau de modernisme hallucinant. Ils leur disent que la question peut encore être posée, elle peut encore être étudiée, parce qu'on ne connaît pas la valeur d'une déclaration définitive. Donc en fait, c'est jamais définitif. Et ça, c'est du modernisme à l'état pur. Pourquoi ? Parce que le modernisme nous dit que la vérité est une évolution permanente, donc elle n'est jamais figée. C'est Maurice Blondel, hein, tout ça. C'est la reprise de Maurice Blondel. Donc ils nous disent, certes, il y a un truc qu'on appelle à un moment donné une déclaration définitive, mais ça change avec le temps. Donc la question reste ouverte. C'est-à-dire que Wojtyla Jean-Paul II avait mis un garde-fou, le garde-fou a sauté. Paul VI, rappelez-vous, Montigny Paul VI avait mis aussi un garde-fou. Il avait dit que les ordres mineurs, les ministères d'acolytes et de lecteurs, étaient réservés aux hommes conformément à la tradition de l'Église. Or, chers amis, que fait Bergoglio dans un motu proprio du 10 janvier 2021 qui s'appelle Spiritus Domini. Pierre Thiron, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez adosser à la pièce numéro 5 la pièce numéro 6 ? Que fait Bergoglio, chers amis ? Il contredit Paul VI et il ouvre les ministères, donc les ordres mineurs, aux femmes. Au motif que le baptême nous rend tous, c'est le sacerdoce universel dans Vatican II, blablabla, blablabla. Donc Montigny Paul VI nous dit, la tradition de l'Église nous dit que les ordres mineurs d'acolytes et de lecteurs sont réservés aux hommes. Que fait Bergoglio ? Il nous dit, les femmes peuvent être acolytes et lecteur. Il contredit de plein fouet Montigny Paul VI. C'est normal, chers amis. Pour un moderniste, la vérité évolue tout le temps, donc ce qui était vrai sous Paul VI ne l'est plus sous Bergoglio. Et comme par hasard, ça évolue toujours dans le sens de la subversion et jamais dans le sens de la catholicité. Bergoglio a de la suite dans les idées, et le 23 février 2022, dans la basilique Saint-Pierre, il a institué des femmes, lecteurs et acolytes. Donc les femmes ont officiellement intégré la hiérarchie moderniste. C'est officiel. La hiérarchie moderniste n'est plus masculine, chers amis. Elle est mixte. Je le répète, c'est officiel. Allez sur les sites conciliaires, de presse conciliaire, tout ce que je vous dis est très facilement vérifiable. Les modernistes aiment affirmer, sans l'étayer d'ailleurs sérieusement, et sans d'ailleurs avoir mis un jour un pied dans une chapelle, que les cédévacantistes seraient divisés entre eux. En réalité, les seuls désaccords qu'il y a entre cédévacantistes relèvent de ce qui est opinable. Il n'y a aucun désaccord en matière de foi. Bon. Nos contradicteurs pratiquent ainsi l'inversion accusatoire, car en réalité, ce sont les modernistes, chers amis, qui sont divisés entre eux sur des matières de foi. Et je vais vous le prouver. Voici ce que nous dit Athanasius Schneider, pseudo-évêque moderniste, donc dit conciliaire, au sujet de l'ouverture aux femmes des ordres mineurs. Donc je vous cite le catéchisme, entre guillemets, hein, qu'il a écrit et qui est sorti en début d'année, là. Enfin en début de saison. Page 483, question 643. Les femmes devraient-elles recevoir des ordres mineurs ou exercer le service de lecteurs et d'acolytes ? Réponse d'Athanasius Schneider, non. La pratique ininterrompue et universelle de l'Église interdisait aux femmes le service liturgique de lecteurs et d'acolytes. Et le droit canonique interdisait également aux femmes de recevoir des ordres mineurs ou le ministère de lecteurs ou d'acolytes. Voilà. Et donc il s'oppose frontalement à Bergoglio et à la question 645, il le maintient, hein. Il parle d'une rupture grave et manifeste avec la tradition liturgique ininterrompue de l'Église d'Orient et d'Occident. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une contradiction, un désaccord sur une matière qui touche à la foi au sein des modernistes. Par ailleurs, n'achetez pas ce catéchisme. Je l'ai déjà, j'ai déjà traité de son cas dans une émission qui s'appelle « À quoi servent les tradis ?». Il est rempli malheureusement d'hérésies et d'affirmations calomnieuses contre les papes. Donc, poubelle. Voilà. Alors, par ailleurs, rappelez-vous, au synode sur la synodalité, Bergoglio nous a enseigné que la question du diaconat féminin restait ouverte. Question, chers amis, au regard de l'évolution des événements, est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il s'arrêterait au diaconat ? Est-ce que vous pensez que ce serait un terme ou une étape ? Moi, je vous dis que ce serait une étape. Qu'est-ce qui me permet d'être aussi catégorique ? Mais c'est très simple. Montigny Paul VI avait mis un garde-fou en disant que les ordres mineurs étaient réservés aux hommes, Bergoglio les ouvre aux femmes. Wojtyla nous disait « on ne peut pas ordonner des femmes » et Tuchot, dans les réponses au Dubien, nous dit que les décisions définitives peuvent toujours évoluer. Il le dit implicitement, mais c'est là où il veut en venir. Tous les garde-fous qui avaient été mis par les modernistes ont sauté. Ils ne s'arrêteront pas. S'ils le peuvent, ils iront au bout, chers amis. Bergoglio poursuit à marche forcée la féminisation de sa hiérarchie. Il ne cesse de nommer des femmes à de très hauts postes de la hiérarchie moderniste. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. En 2021, il a nommé Madame Nathalie Bécard sous-secrétaire du Synode des évêques. Il a nommé Sœur Alessandra Smirilli, numéro 2 du Dicaster, pour le service du développement humain intégral. Il a nommé Sœur Raffaella Petrini, secrétaire générale du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Donc ça, c'est le poste qu'avait occupé avant Mgr Vigano, hein, pour vous donner l'idée. Donc c'est un des plus hauts postes du Vatican qu'il a confié à une femme. Il a nommé 3 femmes au dicaster pour les évêques, afin qu'elles puissent nommer, enfin qu'elles puissent prendre part aux décisions de nomination des évêques. Et là, récemment, au mois de juin 2025, il a nommé Sœur Simona Brambilla, préfet du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de fond, une tendance de fond dans la secte moderniste pour féminiser leur hiérarchie. Il y a une accumulation d'actes posés qui trace, je dirais, le chemin de la féminisation. Dès lors, chers amis, lorsqu'une prêtresse anglicane célèbre la pseudo-messe Paul VI, ce n'est pas le fait du hasard. C'est simplement la poursuite d'un processus de féminisation de la hiérarchie qui est parfaitement pensé et parfaitement exécuté, petite touche par petite touche. Face aux critiques, le pseudo-évêque brésilien a fait un mea culpa en disant qu'il y a eu une violation involontaire des normes liturgiques, mais cet euphémisme le trahit, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple violation d'une norme liturgique, il s'agit d'un attentat contre la constitution divine de l'Église. Une femme ne peut pas être un clerc, ce n'est pas possible, c'est de foi, chers amis. Ce n'est pas possible. Donc on voit bien qu'on essaie de noyer le poisson et de préparer les esprits dans le sens de la féminisation. Et bien entendu, chers amis, aucune sanction ne tombera contre les clercs responsables de tout cela. De même qu'il n'y a jamais eu de sanction en Allemagne pour les clercs qui, avant que Bergoglio l'autorise, bénissaient les couples homosexuels. Voilà. Donc, officiellement, aujourd'hui, une femme a célébré la pseudo-messe Paul VI dans une messe extrêmement solennelle. Officiellement, aujourd'hui, la hiérarchie de la secte moderniste n'est plus masculine, elle est mixte. J'en ai fini pour ce sujet. Et maintenant, eh bien, nous allons parler d'un ouvrage que je crois qu'il faut recommander, sans être trop cynique et sarcastique, c'est pas mon propos, mais qu'il faut recommander à Jorge Mario Bergoglio. Puisque nous souhaitons sa conversion et son salut, tout simplement. Bon. Donc nos amis du CSRB ont réédité cet ouvrage, précisément, eh bien, de Saint-Robert Bellarmin. Vous le voyez là. Il s'agit d'une traduction en français, faite par un évêque de Marseille de l'époque, Monseigneur Belzin, je crois que ça se prononce. Et ce livre, eh bien, c'est une sorte, je dirais, d'abrégé de la morale chrétienne. Et pour bien comprendre les choses, bien mourir dans la doctrine catholique, ça veut dire mourir en état de grâce. Je m'explique. L'état de grâce, c'est quand on a la grâce sanctifiante, c'est quand on a en soi la participation à la vie divine, la très sainte Trinité. L'homme a été créé à la base avec cet état de grâce. Mais, par le péché originel, nous l'avons perdu. Le Christ, lorsque le Christ s'est incarné, il est venu réintroduire l'état de grâce. C'est en ce sens qu'il est notre sauveur. Enfin, il est venu restituer la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante, les catholiques l'obtiennent lorsqu'ils se font baptiser, mais en revanche, on la perd lorsque l'on commet un péché mortel. Et cette grâce, on la recouvre lorsque on se confesse. D'où l'importance d'avoir des clercs valides pour nous confesser. Vous voyez ? Les modernistes, eux, nient cet enseignement depuis Vatican II. Voici-là a développé tout cela, et Bergoglio plein de fois, puisqu'eux, ils nous disent, non, la grâce sanctifiante, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, c'est naturel à l'homme, et donc, même si vous êtes catholique, même si vous vivez dans le péché mortel, vous avez la grâce sanctifiante. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Mais retenez, chers amis, que lorsque un catholique commet un péché mortel, il perd la grâce sanctifiante. Pour aller au ciel, il faut mourir avec cette grâce sanctifiante. C'est pourquoi on confesse les personnes qui sont sur le point de mourir. Bon. Donc, vous disais-je, chers amis, Saint-Robert Bellarmin nous explique comment faire une bonne mort, c'est-à-dire comment mourir en état de grâce, avec la grâce sanctifiante. L'ouvrage a deux parties. Comment il faut faire pour bien vivre et comment il faut faire donc pour bien mourir, puisque les deux sont liés. Pour bien mourir, nous dit Saint-Robert, donc il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut renoncer au monde. Il faut renoncer au monde pour vivre pour Dieu. Il faut renoncer aux fausses gloires du monde. En quelque sorte, il faut changer de référentiel. C'est pourquoi quand une personne se convertit, on dit qu'elle change de vie, très souvent. Hein. Alors que faire, chers amis, justement, pour vivre en Dieu? Eh bien, Saint-Robert nous le dit, il développe tout cela. Il nous dit qu'il faut exercer les trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Saint-Robert nous dit que la charité est la fin, mais que dans l'ordre de la production, la première de ces vertus est la foi. Sans foi, il n'y a pas de charité. Est-ce que je vais vous retrouver le passage? Et d'ailleurs, Pionce le dit ça dans Mortalium Animos, hein, que la foi est à la base de la charité. Donc pas de charité sans foi. La charité, c'est l'amour de Dieu par-dessus toute chose. Hein. C'est pas la sentimentalité gentillette des modernistes. Hein. Saint-Aubert nous dit donc, il y a donc trois vertus dans lesquelles consiste la perfection de la loi chrétienne. La charité qui naît d'un cœur pur, l'espérance qui naît d'une bonne conscience, et la foi sincère. Mais de même que dans l'ordre de la perfection, la première de ces vertus est la charité, de même dans l'ordre de la production, la première est la foi, selon ce qu'on a dit l'apôtre saint Paul, etc. Voilà. Alors par ailleurs, Saint-Robert nous explique qu'il faut avoir une foi qui est vraie, une foi avec laquelle on vit en conformité, une foi qui n'est pas feinte, qui n'est pas fausse. Il nous dit que l'espérance naît donc de cette foi, et il développe aussi ce qu'est la charité. Saint-Robert a de très belles phrases sur les riches et sur le fait que la richesse n'appartient pas aux riches et qu'ils doivent la gérer pour Dieu. Saint-Robert nous dit aussi qu'il faut exercer trois vertus morales, la sobriété, la justice et la piété. La sobriété se rapporte à nous-mêmes, la justice se rapporte au prochain et la piété se rapporte à Dieu. Comment faire pour exercer la vertu de sobriété? Saint Robert nous recommande très fortement de faire des jeûnes. Pourquoi? Citation. Donc les jeûnes disposent l'âme à l'oraison et à la contemplation des choses célestes. Le jeûne sert à dompter la chair, donc les jeûnes sont très utiles pour lutter contre les tentations d'impureté. Le démon aujourd'hui tire beaucoup sur cette corde. Et aussi, les jeûnes sont un honneur que l'on rend à Dieu. Saint Robert nous dit que le jeûne apaise Dieu. Et on rappelle que la ville de Ninive, qui était pécheresse, notamment, eh bien, pour faire pénitence et pour replaire à Dieu, a fait des jeûnes. Et Saint Robert nous évoque aussi le personnage de l'Ancien Testament, Anne, qui était une femme stérile, mais en raison de ses jeûnes, eh bien, le bon Dieu lui a permis de pouvoir enfanter. Saint Robert ensuite nous parle de la justice qu'il faut avoir pour son prochain, et il développe longuement la question de l'aumône. Il nous dit que l'aumône nous délivre de la mort éternelle, qu'elle efface certains péchés, et elle renforce la confiance en Dieu. Il nous dit que pour faire l'aumône, il faut avoir une intention pure, donc vous ne savez pas comme les gens qui exposent leur générosité publiquement, n'est-ce pas? Il faut la faire promptement, sans forcer, et il faut la faire, nous dit-il, avec gaieté. Il faut être content de donner. L'aumône renforce l'esprit d'humilité, nous dit Saint-Robert, et donc il recommande très fortement, bien entendu, aux hommes riches, et comme je vous l'ai lu tout à l'heure, celui qui donne reçoit plus que ce qu'il donne. Voilà, et il nous dit que l'aumône doit être proportionné à nos revenus, parce que l'objectif, c'est pas non plus de s'aborder, par exemple, un foyer en donnant tout à autrui. Hein. Bon. Donc ça va être proportionné. Et enfin, Saint-Robert nous explique longuement comment bien prier. Hein. Donc il nous dit qu'il faut prier avec foi, espérance, confiance, charité, humilité, etc. Donc voilà comment bien vivre. Il évoque aussi l'importance des différents sacrements. Pour bien mourir, je ne vais pas développer, mais Saint-Robert recommande de faire de nombreuses méditations. Méditation sur la mort, méditation sur le jugement dernier, sur l'enfer, sur le paradis. Il nous explique qu'il faut faire son testament. Et aussi, c'est très important, il nous explique comment vaincre les ultimes tentations que le démon nous envoie, passez-moi la formule, dans la tronche lorsqu'on est sur notre lit de mort. Parce que le démon ne lâche rien. Et jusqu'au dernier moment, il espère attraper votre âme. Et donc, il explique qu'au dernier moment, il peut vous donner des tentations de haine de Dieu, des tentations de désespoir, des tentations d'incrédulité. Donc, Saint Robert nous donne des conseils pour vaincre ces ultimes tentations que le diable nous envoie dans la tronche pour prendre notre âme alors qu'il n'avait pas réussi à le faire avant. Voilà. Donc c'est un ouvrage extrêmement riche, très bien écrit, très facile d'accès. Il ne faut pas être impressionné du fait que Saint Robert était un docteur de l'Église, donc un des plus grands théologiens de tous les temps. Voilà. Donc l'art de bien mourir, chers amis, de Saint Robert à la main, et prions, chers amis, pour la conversion de Jorge Mario Bergoglio, et si il survit à son épreuve actuelle, prions pour qu'avant qu'il disparaisse, il nous fasse un magnifique feu d'artifice moderniste final qui fasse bien ouvrir les yeux au sujet de son imposture, aux fidèles de bonne volonté. Voilà. Je dis aux fidèles de bonne volonté parce que le critère ultime pour la conversion, chers amis, c'est la volonté d'accéder à la vérité. Parce que je suis désolé, mais quand on voit que cette fausse église bénit les couples homosexuels, enfin, comment on peut penser une seule seconde que c'est catholique, quoi ? Expliquez-nous, s'il vous plaît, en commentaire, les conciliaires qui nous suivaient, expliquez-nous comment, dans votre cerveau, vous pouvez penser que c'est catholique la bénédiction des couples homosexuels, quoi. Enfin, franchement, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions intelligentes, plus entièrement ? Il n'y en a pas, hein, c'est ça ?
Non, mais il y a un don de François qui vous dit merci.
Eh bien, merci, cher François. Merci de soutenir la cause. C'est sympa.
Et voilà.
Bon, bah écoutez, pas de zèle. On va s'arrêter là parce que l'émission était dense. Nous préparons, chers amis, des émissions très intéressantes, notamment une que je ne ferai pas seul. Je vous laisse la surprise. J'en ai parlé plus entièrement avant le début de l'émission. Voilà, donc continuons le combat. Si vous n'êtes pas encore catholique, chers amis, devenez catholique. Intégrer une chapelle en Unakum si c'est possible. L'objectif de ces émissions, c'est que vous viviez en état de grâce. Voilà. Comment faire pour sauver la France ? Il faut plus de catholiques en état de grâce. C'est ça que le bon Dieu attend de nous. Voilà. La grâce sanctifiante sauvera la France. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, chers amis, si vous n'êtes pas catholique, devenez catholique. Intégrez une paroisse, faites-vous baptiser. Vivez en état de grâce. Voilà, c'est ce que le bon Dieu attend de nous aujourd'hui. Et professer, en privé et en public, la foi catholique. Voilà. J'en ai fini, chers amis. Je vous remercie et on se dit à dans deux semaines.